Le dévoilement de Dieu numéro 111. La vraie vigne Néhémie prêchera que la parole de Dieu est rien d'autre. 25 août 2019. Pasteur Brian Kozurek. Dans le dévoilement de Dieu, Frère Branham dit au paragraphe 94. Qu'en est-il des gens qui disent qu'ils sont voilés dans la présence de Dieu et prêchent certaines traditions d'Église? Oh! Miséricorde! Pitié! Qui ajoute et retranche, et toute autre chose, comme à injecter leur propre sujet et leur propre pensée, et non la parole de Dieu? Voyez, quel genre de voile? C'est-à-dire un voile ecclésiastique. Dieu a déchiré ce voile totalement, l'a ouvert. Ils disent, il n'y a rien comme prophète. Il n'y a rien dans les derniers jours comme apôtre et prophète. Il n'y a rien comme la guérison divine. Il n'y a rien comme voyant. Il n'y a rien comme Marc 16. Être accompli. L'âge apostolique est passé. Ils l'ont voilé aux gens. Mais Dieu est sorti avec le Saint-Esprit de feu et a déchiré la chose des apostrophes en bas. Dieu a déchiré le voile. Mais ce matin, j'aimerais tirer notre pensée de ce paragraphe et parler sur le fait qu'ils tirent leur propre sujet et leur propre pensée, en dehors de la parole de Dieu. Je souhaite montrer ce matin, que la vraie vigne Néhémie s'en tiendra qu'à la parole de Dieu confirmée de la saison, pendant que la fausse vigne, placeront leurs idées au-dessus de la parole confirmée pour la saison. Hébreux 3, 6. Mais Christ l'Esther comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est-à-dire nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Le mot profession a été traduit du mot grec homologéo, qui signifie une reconnaissance faite sur base de notre confession ou profession. Ce que nous professons, ce dont nous parlons en reconnaissance de. Ainsi, dans son essence, nous voyons que la confession et la profession sont pareilles, et c'est-à-dire la reconnaissance de Christ dans notre vie. Cela ne vient pas par le fait d'appuyer sur un bouton. Cela vient de ce que la Bible dit, comme un homme pense, tel il est dans son cœur, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, il y a une expression qui est une plaisanterie à ce sujet, et je pense que si vous n'avez mis fait pas attention, cela vous donnera une mauvaise impression. De penser en termes de appuyer et jouer, c'est tout ce que vous avez à faire, qui vous conduira à une vie très de rébellion. Maintenant, je Néhémie dit pas que nous Néhémie devrions pas appuyer et jouer, parce que c'est la chose à faire, quand vous souhaitez entendre quelque chose que le prophète aurait dit au sujet d'un certain sujet. Mais le fait d'appuyer ou de presser sur le bouton, Néhémie donne à personne une idée, de ce que vous êtes et de ce qui est dans votre cœur. Vous Néhémie montrez pas les fruits en appuyant ou en pressant sur le bouton. Mais parler de la parole et vivre ce que vous croyez, vous manifestera, soit comme un authentique ou quelqu'un d'autre, cela prouvera que vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez et que vous êtes simplement un hypocrite. Et votre vie parle plus fort au ciel que vos paroles. Car à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Maintenant, Dieu connaît mon cœur et je n'y suis pas ici pour me disputer avec qui que ce soit. Mais je dois rendre compte de mes paroles au jour du jugement, quand nous nous tiendrons tous devant le juge de toute la terre. J'ai un avantage, car je crois me tenir déjà dans la présence du juge de toute la terre, car je crois que le juge suprême est ici, et comme je devrais rendre compte, je n'y pense pas vous livrer mes pensées sur ce sujet, mais dire simplement c'est que l'écriture de Dieu et son prophète ont déjà dit sur la question. Parce que nous avons été instruits par l'apôtre Paul dans Hébreux 10, 23-25. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et cette profession dont il nous est dit de retenir fermement, c'est ce que nous déclarons en reconnaissance de ce que nous croyons, qu'il a accompli pour nous et qu'il a accompli pour nous en cette heure. Et nous ne devrions pas le faire avec malice envers qui que ce soit, mais avec amour en rachetant le temps. Comme l'apôtre Paul continue à en parler au verset suivant. 24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Maintenant, nous considérons généralement ce mot excité comme un mot qui amène quelque chose à se produire. Et souvent, il est utilisé lors de la colère ou de la dispute. Il m'a provoqué, ainsi je l'ai frappé. En d'autres termes, le mot provoqué en langue anglaise signifie énervé, enragé, exaspéré, ou vexeur. Remuer, susciter, ou appeler à des sentiments, des désirs, ou activités, inciter ou stimuler à l'action. Donner l'occasion à induire, ou apporter à propos de. Mais frère Branham nous dit ce que Paul voulait dire dans sa prédication. Le péché impardonnable 24 octobre 1954 p. 32. Provoquer là veut dire encourager. S'encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Si vous voyez un frère dans l'église qui a quelque chose contre l'autre frère, ne dites pas quelque chose pour envenimer la situation, mais dites quelque chose qui va les amener à se réconcilier. S'exciter les uns les autres aux bonnes œuvres et à aimer, c'est ce que nous devrions faire. Qu'est ce? C'est un homme qui est né de nouveau. Si vous, mon frère, ce soir, ne ressentez pas cela, quand vous voyez vos frères tomber, et s'adresser des paroles tranchantes les uns les autres, si vous n'avez pas les sentiments de les réconcilier, c'est votre temps d'aller à l'autel. C'est juste. Il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie. Il y a quelque chose dans lequel vous avez été séduit. Vous n'avez pas l'expérience que Dieu veut que vous puissiez avoir. Car Jésus, quand il a été frappé, il n'avait pas frappé à son tour. Et quand on avait parlé en Malachie de lui, il n'a pas répondu en Malachie. Et quand il lui avait fait du mal à qui, il s'était retourné et leur avait fait du bien. Quand ils l'ont persécuté et cloué à la croix, il a regardé en bas et a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si ce genre d'esprit n'est pas en vous, le Saint-Esprit n'est jamais entré en vous encore, car c'était le même esprit qui était dans le Christ Jésus. » La Bible dit, qu'il soit en vous, Christ dans son Église. C'est pourquoi, je voudrais parler sur ce sujet ce matin, non pas pour montrer toute la haine envers qui que ce soit, mais pour vous montrer où ces choses peuvent, elles mener. Maintenant, à aucun moment je n'ai émis en désaccord du fait de jouer les bandes, parce que frère Branham nous a enseigné, que quand il y a une question sur quelque chose qu'il aurait dit, alors jouez la bande pour découvrir ce qu'il en est. Mais beaucoup ont pris cette pensée de jouer les bandes comme un moyen de rester à la maison, alors que ce n'est pas du tout ce que William Branham avait souhaité que nous puissions faire. Et ni l'apôtre Paul, comme il le dit au verset suivant, 25 n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et vous ne pouvez pas exhorter sans parler ou prêcher. En fait, Jésus avertit dans Luc 21, 36 « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Ainsi, nous sommes appelés à veiller activement, et non de manière passive. Jouer la bande pour remplacer le fait de s'assembler, n'est-ce pas veiller activement mais une manière passive d'exprimer votre foi? Et c'est-ce pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5, 20-21 Néhémie, méprisez pas les prophéties. Néhémie méprisait pas la prédication, mais plutôt, mais examinez toutes choses, et ensuite, retenez ce qui est bon. Ainsi, comment éprouvez-vous toutes choses? Vous lui donnez le test de la parole. Maintenant, ce mot prophétisé, que l'apôtre Paul a utilisé ici, a été traduit du mot grec prophteia, qui signifie parler sous l'inspiration divine. Cela peut signifier des choses présentes ou futures. Cela a été utilisé en se référant aux enseignants du Nouveau Testament, qui enseignaient sous l'inspiration du Saint-Esprit, et les paroles prophétiques produites par les prophètes de l'Ancien Testament. Et nous entendons Jésus nous dire dans Apocalypse 19, 10 et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus estère l'esprit de la prophétie. Et frère Branham nous a dit que ce n'estère pas le prédicateur qui prêche mais que c'estère Dieu qui prêche dans le prédicateur. Il a dit que ce n'estère pas l'enseignant qui enseigne, mais le Saint-Esprit dans l'enseignant qui enseigne. Jésus-Christ le même 26 avril 1956 p. 49 maintenant, son corps physique se tient à la droite de Dieu. Croyez-vous cela? N'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit est ici pour œuvrer à travers ce vase sanctifié. Et Dieu a placé dans l'Église, qui? Premièrement, les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les enseignants, ensuite les évangélistes, ensuite les pasteurs, est-ce vrai? Pour le perfectionnement de l'Église. Dieu l'a fait. Ce n'est-ce pas les prédicateurs qui prêchent? C'est-ce Dieu qui prêche au travers de lui. Ce n'est-ce pas le prophète qui voit la vision? C'est-ce Dieu qui parle au travers de lui. Je n'ai mis fait rien à moins que le Père. Néhémie me le montre premièrement. L'expectative 12 juin 1954 p. 75 Le prédicateur vient avec la parole. Et la prêche. Et la dépose. Et vous montre que c'est la volonté de Dieu. Et si vous Néhémie voulez pas prendre la parole de Dieu. Pour moi. Ce sera assez. Mais je Néhémie suis pas Dieu. Dieu dans sa miséricorde. Au-delà. Il envoie dans l'Église, des prophètes, et des enseignants, et des évangélistes, et tout pour magnifier et vous amener au point. La reine de Sheba 19 février 1961 p. 82 Bien maintenant, s'il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, cela doit être le même en principe, le même en puissance, le même en manifestation. La seule chose, c'est Esther le corps physique, son corps Esther à la main droite de Dieu, le Père dans le ciel, se tenant sur le trône. Croyez-vous cela? Un souverain sacrificateur. Et maintenant, son Saint-Esprit Esther ici, lequel esprit était sur Christ, lequel Esther Dieu dans la chair humaine, votre chair, ma chair, comme le sang nous purifie. Il prêche l'évangile à travers le prédicateur, prophétise à travers le prophète, et révèle le secret des cœurs, parle en langue, interprète les langues, et chaque chose est en ordre. Croyez-vous cela? Très bien. De Pierre 1, 21 Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie, une prédication divinement inspirée a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 1 Corinthiens 14, 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, une prédication divinement inspirée, au contraire, Esther un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. 1 Corinthiens 14, 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je venais à vous parler en langue, et si je n'ai mis vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, une prédication divinement inspirée, ou par doctrine? 1 Corinthiens 13, 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, une prédication divinement inspirée, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je n'ai mis suis rien. Ainsi, quoique la prédication soit divinement inspirée, pourtant si ce n'est Esther pas environnée d'amour, c'est Esther rien. 1 Corinthiens 12, 10. À accent grave à un autre, le don de père et des miracles, à un autre, la prophétie, une prédication divinement inspirée, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Romains 12, 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, une prédication divinement inspirée, l'exerce, prêche, selon l'analogie de la foi, et ainsi, nous sommes instruits par l'apôtre Paul dans 2 Timothée 1, 13 de retiens dans la foi et dans la charité, qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles, que tu as reçues de moi. Mais la fausse vigne place leurs propres idées au-dessus de la parole de Dieu, et Néhémie se soumettront jamais à la parole de Dieu. Psaume 10, 4. Le méchant dit avec arrogance, il Néhémie punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Esaïe 55, 7-11. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui Néhémie se lasse pas de pardonner. Car mes pensées Néhémie sont pas vos pensées, et vos voies Néhémie sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est stérile de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne m'y retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ézéchiel 18, 29-31. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'estère pas droite. Est-ce sur ma voix qui n'estère pas droite, maison d'Israël? Néhémie sont-ce pas plutôt vos voix, qui Néhémie sont pas droites? Ézéchiel 18.36. Pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voix, maison d'Israël? Dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité Néhémie cause pas votre ruine. Ézéchiel 18.31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Psaume 103. 6-7. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal acquis. Psaume 1, 5-6. Esther, pourquoi les méchants Néhémie résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voix des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et nous voyons encore la même chose dans Proverbe 16, 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Jérémie 8, 5. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Hébreux 10, 26. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Dans sa prédication, intitulée « L'histoire de ma vie » 14 mars 1954 p. 16, Frère Branham dit « Dieu a envoyé des ministres pour prêcher l'Évangile. » Et Paul dit dans Éphésiens 4, 11-16 « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous n'y soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Question et réponse COD 30 août 1964 MP, 112 349 maintenant. Frère Branham, est-ce vrai que personne Néhémie peut prêcher en dehors de vous? Maintenant, remarquez que cette question a été posée à Frère Branham, il y a de cela 55 ans. Cela fait un long moment. Ainsi, Néhémie pensait pas que c'était du nouveau, ce que nous entendons ces jours, si. Le même esprit qui se trouvait dans les réunions là-bas. Mais écoutez sa réponse, et alors vous recevrez votre réponse. Il continue à lire la question, et c'était une bonne question, mais il y a une raison pour laquelle Frère Branham a lu la question en ce temps-là. Et je crois que sa réponse n'a pas changé. Il continue à lire, « Nous t'avons vu ordonner des hommes. Nous, Néhémie, croyons pas que vous l'auriez fait, si Néhémie devait pas prêcher. Miséricorde. Frère, sœur, qu'importe qui vous ait dit que personne Néhémie doit prêcher à part moi, je serai certainement un pauvre sujet devant Dieu avec une telle chose. Non. Tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, doit entrer dans le ministère et commencer à prêcher. Nous avons besoin d'eux. Des hommes de Dieu sont loin à travers le monde pour prêcher l'Évangile. Voyez, je suis juste un vieux caillou sur une plage de beaucoup de pierres. Voyez, ainsi, il y en a beaucoup qui soient plus qualifiés, plus dignes, plus de beaucoup des choses, que moi pour prêcher. Je suis le plus petit, une personne humble se tenant ici. Je suis un grain de blé dans tout le grenier. Voyez, ainsi, c'est un, vous savez ce que je veux dire. Tout homme qui est appelé de Dieu, doit prêcher l'Évangile. Et dans sa prédication, Apocalypse au chapitre 4 pt 3, le trône de miséricorde 8 janvier 1961 p. 56 de nos jours, Ils sont ainsi? Bien. Nous n'y croyons pas dans le fait de citer enfer du haut de la chair. Oh! Miséricorde! Ainsi. Nous avons besoin des hommes de Dieu. Des hommes qui n'y cacheront rien. Maintenant, tous n'y peuvent pas être prédicateurs, mais vous avez une voix. Et si vous, Néhémie, pouvez prêcher une prédication aux gens? Si vous êtes un prédicateur, vous êtes appelé à la chair pour prêcher. Si vous, Néhémie, l'êtes pas, vous êtes néanmoins un prédicateur, mais vivez une prédication pour les gens. Que votre prédication soit vécue, et s'estère la voix de Dieu qui amènera l'opprobre à ceux qui la rejettent. Ils disent. Personne Néhémie peut pointer son doigt sur sa vie. Ils sont doux, vivants. S'il y a jamais eu un homme de Dieu, c'est Esther, cet homme ou cette femme. Voyez, vivez vos prédications. N'essayez pas de leur prêcher. Si vous n'êtes pas appelé à être un prédicateur, vous embrouillerez tout. De toute façon, et confondrez tout. Et vous amènera les gens à être embrouillés. Et vous n'y saurez pas. Bien. Vous les ruinerez et vous avec. Vivez simplement votre prédication. Le prédicateur Esther appelé à prêcher sa prédication et à la vivre aussi. Si vous n'y pouvez la vivre, alors arrêtez de la prêcher. Mais vous êtes censé vivre vos prédications. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu 28 novembre 1965 p. 61 vous êtes responsable de cet évangile, le prédicateur Esther, et Esther tout, non pas comment il Esther écrit, il Esther simplement responsable de le déclarer. Et comme serviteur, si vous êtes un prophète, vous êtes responsable envers Dieu. Et les visions qui viennent pour éclairer cette écriture et montrent ce qu'il en Esther, vous êtes responsable de chaque parole qui se trouve dans cette Bible. Parce que tout Esther écrit par le même genre des personnes que vous êtes. Le Dieu de temps ancien a voyagé à travers les prophètes et a écrit la Sainte Bible. Voyez, aucun prophète authentique de Dieu Néhémie peut en renier un seul mot, mais en croit chaque mot et prêche de même. Et ensuite Dieu Esther obligé à travers ce canal faire de que cette parole s'accomplisse, exactement comme il l'a promis, la semence grandira. La puissance de transformation 31 octobre 1965 p. 74 Un prédicateur peut prendre cette parole, et va de l'avant et la prêche, et la déclarer, cette parole grandira. Mais le prédicateur pourrait être un hypocrite. C'est Esther la parole. Voyez? Mais la vraie créature vivante de Dieu prend tout le but, la parole. L'homme Néhémie vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si vous y ajoutez quelque chose d'autre, vous avez une plante pervertie. Et ensuite pour ceux qui disent que nous n'avons besoin de personne pour nous enseigner, car le Saint-Esprit était à l'enseignant. Alors pourquoi il plaçait dans l'église des enseignants? Dans sa prédication, question et réponse et la loi a possédant le nombre 16 mai 1954 33 au, s'il vous plaît. Église, ayez la foi, juste un peu de temps. Voyez. Vous devez venir sous un enseignement. Vous dites je n'ai besoin de personne pour m'enseigner après que le Saint-Esprit soit venu. Mes amis, cela me donne juste un peu d'espace pour douter, si vous l'avez réellement reçu, ou pas, ensuite. Voyez, la manière que vous agissez avec cela. Voyez, la chose que vous faites. Maintenant, pourquoi, s'il n'y a pas de, si la Bible dit que le Saint-Esprit était à l'enseignant, pourquoi le Saint-Esprit place-t-il des enseignants dans l'Église? Alors, pour placer l'Église en ordre. Le même Saint-Esprit? Certainement. Nous n'avons besoin d'aucun séminaire tout autour. Un grand groupe des gens pour regarder à ces choses. Le Saint Esprit Esther un enseignant. Voyez, c'est Esther un enseignant. Et cela donne à quelqu'un un don d'enseignement. Alors vous devez vous soumettre à ce don. Il nous est ordonné de 2 Timothée 4, de prêcher la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend. Censure. Exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Et prêche. Reprend. Censure et exhorte par la parole parlée. Vous devez prêcher pour exhorter. Vous devez prêcher pour reprendre. Vous devez prêcher pour censurer. Et jouer la bande Néhémie pourra pas le faire. Parce qu'il est facile de s'asseoir et Néhémie même pas faire attention à ce que le prophète de Dieu dit sur les bandes. Il y a de cela 50 à 60 ans de cela. Et faisons preuve d'un peu de bon sens en ceci. Parce qu'un homme est appelé prédicateur. Parce qu'il prêche. Et un enseignant enseigne. Un évangéliste évangélise en prêchant et enseignant. Un apôtre prêche et enseigne. Et ainsi fait un prophète. Il est un prédicateur. Matthieu 28, 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si cet enseignant enseigne sous l'inspiration du Saint-Esprit alors les signes et les prodiges suivront son ministère. Parce que l'enseignement oint et la prédication ointe, c'est la même chose. Vous Néhémie pouvez pas prêcher sous l'onction du Saint-Esprit et Néhémie pas enseigner. Car si vous vous tenez là dans une mousse et sentez l'onction et ensuite leur dire simplement ce qu'ils savent déjà, rien Néhémie se produira comme signe et prodige, parce que Dieu Néhémie vous aura pas envoyé. Dans Luc 6, 40, Jésus a dit, le disciple n'estère pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et pourquoi est-ce ainsi? Parce que c'est important, l'enseignant qui vous enseigne. Si vous vous mettez sous un faux enseignant, vous entendrez un faux enseignement, et ainsi votre pensée sera remplie d'erreurs. Raison pour laquelle frère Branham dit dans sa prédication Questions et réponses, la loi ou la grâce, 16 mai 1954 33 au s'il vous plaît Église, ayez la foi, pendant un moment. Voyez. Vous devez venir sous un enseignement. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 10, 13 à 17 car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler? S'il n'y a personne qui prêche, et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils n'y sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Martin Luther, dans ses commentaires sur ces versets, dit, même s'ils disent qu'ils écoutent, ils se vantent en vain, à moins qu'ils écoutent des véritables prédicateurs, car écouter de faux prédicateurs, veut dire Néhémie rien écouter. Ils écoutent mais n'écoutent pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas, ni Néhémie prêche la véritable parole de Dieu. Il y a 4 déclarations qui se suivent, de telle manière que les unes conduisent aux autres, au point que toutes se reposent sur la dernière. Ainsi, 1. Il est impossible que ceux qui Néhémie sont pas envoyés, Néhémie prêche. 2. Il est impossible que ceux qui n'ont pas de prédicateur, écoutent. 3. Il est impossible que ceux qui n'entendent pas, Néhémie croient. 4. Il est impossible que Néhémie croit pas, invoque le Seigneur. À celle-ci, doit être ajoutée la cinquième. Il est impossible que soient sauvés ceux qui n'invoquent pas le Seigneur. Ainsi, alors, la source entière de l'origine du salut repose sur le fait que Dieu envoie quelqu'un, un véritable ministre de la parole. S'il n'envoie personne, alors ceux qui prêchent des faussetés, et leur prédication est fausse. En fait, il sera mieux pour eux de Néhémie pas prêcher. Ensuite, ceux qui écoutent des erreurs, et il sera mieux pour eux de Néhémie pas écouter. Ensuite, ceux qui croiront à une fausse doctrine, et il sera mieux pour eux de Néhémie pas invoquer. Pour de tels prédicateurs de Néhémie pas prêcher, de tels auditeurs de Néhémie pas écouter, de tels croyants de Néhémie pas croire, de tels adorateurs de Néhémie pas invoquer, ils seront condamnés parce qu'ils seraient sauvés faussement. Comme nous le lisons dans Proverbe 1, 28, alors ils m'appelleront, et je Néhémie répondrai pas. Ils me chercheront, et ils Néhémie me trouveront pas. Ainsi, Néhémie peuvent prêcher avec certitude que ceux qui prêchent sans erreur. Et la seule manière que vous puissiez le faire, est que vous soyez premièrement remplis du Saint-Esprit, parce qu'à moins que vous n'ayez l'Esprit de Dieu, vous Néhémie pouvez comprendre les choses de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 2. Maintenant, nous savons ce que Paul dit dans Romains 10, et nous savons ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 11, et encore dans le livre de Galates, que s'ils reçoivent une fausse parole, alors ils recevront un mauvais esprit. Comment alors pouvons-nous penser que quiconque se tient sous un faux ministère et possède une fausse conception du message a un bon esprit? Lequel est-ce le Saint-Esprit? Une fausse conception est-ce une fausse vivification à la vie? La conception signifie rendre vivant. Nous savons que Pierre a dit, dans 1 Pierre 1, 23, que puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Jésus nous a dit que le semeur a semé une semence, qui est la parole de Dieu. Et cette semence produira une vie, selon la loi de la reproduction, qui dit que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Ainsi, recevoir une fausse parole, c'est recevoir une mauvaise semence, et par conséquent doit produire un mauvais esprit, lequel est une mauvaise vie. Comment cela peut-il en être autrement? Savez-vous que frère Branham a dit, nous devons avoir un enseignement correct pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, pour recevoir le sceau de Dieu, et si vous Néhémie recevez le sceau de Dieu, il n'y a qu'un sceau qui reste et c'est celui de Satan, lequel est la marque de la bête. Maintenant, remarquez que Jésus à ce niveau dans la parabole de Luc au chapitre 6, parlait au sujet de Néhémie pas suivre aveuglement, parce que vous pourriez suivre quelqu'un qui soit aveugle comme vous l'êtes. Et alors, il dit que si votre enseignant vous a équipé correctement, alors vous deviendrez comme cet enseignant. En d'autres termes, vous penserez comme lui, et parlerez comme lui, et agirez comme lui. Maintenant, ce n'est pas pour dire que vous regardez à la chair, mais nous sommes guidés par une seule chose, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, le fils Néhémie peut rien faire mais ce qu'il voit faire au Père, le fils le fait pareillement. Alors, le fils fera et agira et parlera et pensera comme le Père pense et parle et agit. Maintenant, abordons cela. Le Saint-Esprit est l'enseignant. Et si un homme est abandonné à l'Esprit de Dieu et est appelé pour enseigner cette parole, alors il fera comme le Père lui aurait montré de faire, et les gens qui regarderaient à ce ministère, refléteront les mêmes principes et deviendront d'une certaine manière comme le Seigneur Esther pour le disciple. Luc 6, 40. Le disciple n'Esther pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Maintenant, retenez ce que Jésus dit au verset suivant. Luc 6, 41-42. Pourquoi vois-tu la paille qui Esther dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui Esther dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui Esther dans ton œil? Toi qui n'es mis vois pas la poutre qui Esther dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui Esther dans l'œil de ton frère. Maintenant, si vous devenez un avec votre enseignant, comment pourrez-vous regarder aux erreurs de cet enseignant? Cela n'a pas de sens pour moi, mais ils l'ont fait à Moïse. Il les a conduits en suivant Christ, et ils l'ont suivi comme il a suivi Christ. Et pourtant, ils ont voulu le lapider. Et Paul a dit, « Suis, moi comme je suis Christ » et pourtant ils voulaient le lapider. Et c'était pareil avec William Branham et je l'ai vu avec Frère Vell. Ainsi, nous voyons Jésus avertir le disciple au sujet d'avoir un mauvais focus. Maintenant, observez la chose remarquable que Jésus nous dit ici. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On n'est mis cueille pas des figues sur des épines, et l'on n'est mis vendange pas des raisins sur des ronces. Et nous savons que dans le message les uns au temps de la fin, William Branham nous a enseigné que le fruit était à l'enseignement de la saison, ce qu'ils enseignent pour la saison. En d'autres termes, le fruit était ce qu'ils enseignent. Le fruit de leur ministère. Et il nous dit que si vous êtes un bon arbre, alors vous n'enseignerez pas l'erreur. Votre enseignement atteindra l'objectif. Car le mot péché signifie manquer le but. Mais le mot juste signifie avoir la sagesse juste. Et comment pourriez-vous être un homme juste, si vous êtes injuste dans votre pensée? Car en 5 l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Maintenant, souvenez-vous que le cœur représente la compréhension, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est Esther de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, à la lumière de ce que Jésus dit ici, il nous dit que si votre compréhension est bonne, vous produirez de bonnes choses, et si votre compréhension est mauvaise alors vous produirez de mauvaises choses. Si vous vous rappelez, il y a de cela plusieurs années, j'ai prêché sur le jardin de notre pensée et avais montré que la pensée est un jardin, et y sont plantés beaucoup de semences. Et les semences qui sont plantées dans votre pensée, sont ces choses qui seront manifestées dans votre vie. Par conséquent, qu'importe ce que vous semez, vous le récolterez certainement. Et de ce fait, les choses que vous nourrissez votre pensée avec, deviendront manifestes dans votre vie. Maintenant, ceci est le temps de la fin et les gens doivent manifester le genre de semences qu'ils sont. Et nous savons que tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est à lumière. C'est Éphésiens 5, 13. Ainsi, alors nous devons comprendre que toutes les semences ici sur terre, doivent arriver à la manifestation de ce qu'elles sont et la nature de la semence qu'ils sont, se manifestera publiquement. Une fois que cette lumière aura frappé cette semence. Et Jésus continue comme nous lisons au verset 46 « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et Néhémie faites-vous pas ce que je dis? Et comment pouvez-vous dire que vous croyez à ce message? Si vous Néhémie le vivez pas, comment pouvez-vous dire que vous croyez à ce signe? Si vous Néhémie l'appliquez pas dans votre vie? Maintenant, Nous en arrivons au cœur de ce parabole. Alors que nous arrivons au verset 47, « Je vous montrerai à qui est-il semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. » 48. « Est-il semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Maintenant, souvenez-vous qu'un rocher représente la révélation. Ainsi cet homme a bâti sa maison sur la révélation. Une inondation est venue. Et souvenez-vous que la Bible nous dit que le diable viendra comme un flot et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. 49. Mais celui qui entend, et Néhémie met pas en pratique, est-il semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison était grande. Maintenant, remarquez que la seule différence est que l'un a entendu et a fait ce qu'il a entendu, et l'autre s'y a entendu mais n'a pas fait ce qu'il avait entendu. Ainsi, la révélation que l'un reçut, était pour faire et la compréhension de l'autre était qu'il n'avait pas à le faire. Regardez, qu'est-ce ce qui sauva Noé et sa maisonnée? Sa foi passive en croyant en Dieu, qu'il allait pleuvoir, or sa foi active est exprimée par ses actions, lesquelles proviennent comme un résultat de cette croyance en Dieu. En d'autres termes, il faisait ce que Dieu lui avait ordonné de faire et c'était de construire une arche. Il nous a été ordonné d'appliquer le signe, et je n'ai mis comprends pas, comment est-ce que les gens peuvent penser que c'est simplement de croire cela. Si je vous demandais d'appliquer la peinture, vous trouverez un rouleau ou un pinceau et ouvrirez la boîte et commencez à l'appliquer. Et frère Branham dit que nous devons l'appliquer. Le signe 1er septembre 1963 M34-9 vous devriez vous aimer les uns les autres. Les croyants devraient se séparer du monde. Maintenant, Néhémie prenez pas cela à la légère. 249 Eh bien, vous tous qui suivez ceci sur bande, vous les femmes, vous les hommes, écoutez bien une minute. Si jamais vous m'avez cru, croyez-le maintenant. 250 Il est temps d'arrêter de vous quereller. Croyez le message de la Bible. Croyez Jésus-Christ. Et aimez-vous. Et honorez-vous. Et respectez-vous. Hommes, respectez vos femmes. Respectez votre foyer. Rassemblez votre maison parce que, souvenez-vous, cet agneau était pour la maison, pas seulement pour une personne, pour toute la maison qui devait être rassemblée. Tout devait avoir été rassemblé à l'intérieur. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Et les croyants devraient se séparer du monde. 251 Remarquez, il Néhémie s'était pas rassemblé simplement pour parler du message. Il s'était rassemblé pour appliquer le sang, pour appliquer le signe. 252 Sester ce que vous devez faire. Pasteur Neuville et vous tous de cette assemblée, les administrateurs, les diacres, vous les frères, il est temps pour nous de mettre de côté toute la folie du monde, de mettre de côté tout le reste. Nous avons vu assez de choses maintenant pour être absolument sûrs. Le signe doit être appliqué. Sans cela, vous périrez. Vous périrez absolument. C'est tout ce qu'il y a. 253 O. Néhémie vous contentez pas de vous réunir, en disant, j'y crois. Mettez-vous dessous. Entrez-y. On entend ici de l'interférence radio. -NDE. Comment faire cela? Nous avons été baptisés dans un esprit, pour former le corps de Jésus-Christ. Que chacun croit de tout son cœur. Voyez-vous? Il n'était pas responsable de quiconque. Néhémie se trouvait pas sous le signe. Nous découvrons cette même parabole dans Matthieu 7, 24-25 sester pourquoi? Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie Esther tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'Esther point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Maintenant, si nous voulons appliquer les symboles dans cette parabole, nous devons savoir ce qu'ils veulent dire premièrement, pour comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, il dit que la pluie tomberait, et nous savons que selon Deutéronome 32, 2, Dieu dit « Ma doctrine tombera comme la pluie ». Ainsi, nous voyons ici que la pluie doit venir avant les flots. Maintenant, nous savons que Satan vient comme un flot, mais nous savons aussi qu'un flot représente le jugement par la parole. Comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à la révélation du Fils de l'homme. Comme la doctrine commence à se répandre sur la face de la terre, alors les jugements qu'apporte la doctrine commencent à détruire chaque maison qu'une Esther pas bâtie sur le roc, qui est Esther la révélation. Vous voyez le déluge, c'est Esther les eaux de séparation, et nous savons que les eaux de séparation, c'est Esther la parole elle-même. Remarquez la pluie, doctrine, doit venir en premier, ensuite le flot qui estère les eaux de séparation, qui emportera toute maison, qui n'estère pas bâtie sur un rocher, qui estère la révélation. Et pas n'importe quelle révélation le fera, car Christ estère ce rocher. Et donc, il y a une seule foi et par conséquent, une révélation et s'estère la révélation de Jésus-Christ. Et bâtissant votre maison sur ce rocher qui est Esther Christ, elle résistera à tout orage qui viendrait. Ainsi, il dit, la pluie tombera, c'est Esther la doctrine, et ensuite les flots s'élèveront, lesquels sont les eaux de séparation qui viendront comme un résultat de cette parole, et ensuite les vents souffleront, ce qui parle de tout vent de doctrine, et par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et cela frappera sur la maison, et si elle n'était pas bâtie sur le rocher de la révélation de Jésus-Christ, alors elle n'y tiendra pas. Si vous venez à l'église, parce que vous savez que vous y êtes obligé, observez, la pluie tombe, et la chose suivante qui viendra, ce sont les eaux de séparation. Alors, vous découvrirez sur quoi votre maison était bâtie. Si vous aviez reçu la révélation de Jésus-Christ, vous serez testé pour voir si vous l'avez ou pas. C'est Esther l'épreuve de votre foi dont Pierre parle dans 1 Pierre 1, 7. Laquelle Esther l'épreuve de votre révélation. 26-29 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et Néhémie les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie Esther tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle Esther tombée, et sa ruine a été grande. Après que Jésus a achevé ses discours, la foule fut étonnée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Maintenant, la version du roi Jacques utilise le mot frapper, qui n'estère pas la translation correcte du mot ekplesso que Jésus utilise ici, parce que cela vous donne une mauvaise compréhension de ce qui se passe. Le mot grec utilisé ici ester ekplesso et signifie frapper, expulsé par un arc, chassé, rejeté par un flux ou chassé. En d'autres termes, il n'aimait voulait pas de sa doctrine. Il voulait l'expulser pour qu'il s'en aille ailleurs, car sa doctrine était si dure pour qu'il l'entende. Et il n'en voulait pas. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient pas parler du Seigneur et de la parole, mais il a dit, ils sont proches avec leur bouche, et loin de Dieu quant à leur cœur. Esaïe 29, 13 Le Seigneur dit, Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Et c'est ce que Jésus leur déclare dans Matthieu 15, 7 Irène hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Jéhovah Jireh Pétain 5 juillet 1962 23 Voyez, vous Néhémie pouvez y aller avec des émotions. Voyez, la vie que vous vivez témoigne qui vous êtes. Voyez, qu'importe le genre de sensation, vous Néhémie pouvez pas baser le christianisme sur une quelconque sensation. C'est une vie. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Non pas par leur profession, non pas par ce qu'ils disent. Et Jésus a aussi dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, c'est leur profession. Voyez, votre vie montre ce que c'est. Et si un homme dit qu'il croit en Dieu, et renie un seul mot de cette Bible, ou le change de n'importe quelle manière, c'est faux. Luc 6, 47-49 Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison était grande. Luc 21, 34-36 Nif, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs n'aient s'alourdissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour n'aient vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Maintenant, arrêtons-nous ici pour un moment pour voir ce que cela veut dire exactement. Il nous a dit de prendre garde au sujet de trois choses qui pourraient nous alourdir et nous attraper comme un piège. Exagération, qui signifie gaspillage ou consommation 3. Indulgence dissolue dans le plaisir sexuel. Intempérance 4. Un amusement, une dérive. Ainsi, nous sommes avertis de prendre garde, de n'aimer pas devenir lourd par ces choses qui sont rampantes dans notre société aujourd'hui. C'est la vitesse fulgurante de l'Odyssée. Et ensuite, il a dit, l'ivresse, ce qui implique la perte de la raison. Et être résolu dans nos pensées. L'anxiété de cette vie. Et nous sommes enseignés par Jésus de nous inquiéter de rien. Vous voyez, Dieu n'aimait je pas, et il n'aimait veut pas que nous pressions pour quoi que ce soit. Il a dit, que nous avons besoin de demeurer dans la présence du Fils pour mûrir. Non pas courir, mais se tenir dans sa présence jusqu'à ce que nous obtenions le confort dans nos esprits et mûrir dans nos âmes. Maintenant, cette écriture nous dit que si nous n'aimons, sommes pas focalisés sur Christ, quand ce jour arrive, nous allons le manquer, et pourtant ces trois choses sont celles sur lesquelles le monde est focalisé aujourd'hui et ils l'ont déjà manqué. Remarquez, qu'il a dit, si vous êtes pris au piège par ces choses, ce jour vous attrapera comme dans un piège, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ainsi, nous regardons cet avertissement ici. Nous ne devons pas être si détendus au point de penser que tout ce que nous avons à accomplir en tant que chrétiens, c'est-à-dire de jouer la bande, ou appuyer sur le bouton et c'est-à-dire tout, nous sommes maintenant des chrétiens. Je sais qu'on est mis, doit pas plaisanter à la chair, mais je pense que ceci vous aiderait, pour comprendre ce que je veux dire. Il y avait un homme, qui était protestant et il était allé s'installer dans un voisinage catholique. Et comme tous étaient catholiques, il ne mangeait pas de viande le vendredi, mais ce protestant n'était pas un catholique. Ainsi le vendredi, après une dure journée de travail, il était rentré à la maison pour se détendre et griller un steak. Quand les voisins ont senti l'odeur de son steak en pleine grillade, les hommes se sont fâchés et sont allés le voir et lui ont dit « Tu n'es ému, peux pas faire cela ici. Ceci est un territoire catholique. » Il a dit « Je n'ai ému, suis pas catholique, donc je peux le faire. » Ainsi, ils prirent sa petite bouteille d'eau et la lui ont aspergée et ont dit « Tu étais un protestant et maintenant, tu es un catholique » et ensuite, ils ont dit « Si jamais nous te voyons encore griller le steak le vendredi, nous viendrons te tuer comme un hérétique. Nous ne pouvons pas le faire et tu ne peux pas le faire non plus. » Bien, cela ne bouscula le protestant d'un seul pas et le vendredi suivant après une longue journée de travail, il rentra à la maison pour se détendre et préparer un autre steak. Quand les voisins commencèrent à sentir ce steak, ils en sont devenus si fâchés et sont allés à sa maison avec des fourchettes et les bats de baseball pour lui donner une leçon. Mais quand ils sont arrivés au coin de sa maison, ils l'ont vu prendre une bouteille d'eau et l'asperger sur le steak et dire « Tu étais un steak, et maintenant tu es un poisson. » Et jamais, le fait de jouer la bande fera de vous un chrétien, mon frère et ma sœur. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Inclinons nos têtes pour la prière. Ce sermon a été traduit en français par frère Bill Venga. billvenga@yahoo.fr. C. Grace Fellowship Tabernacle. Ohio. USA.